Myriam Benrad, bonjour.
Bonjour.
La vengeance est un moteur du terrorisme. Elle motive souvent le désir du passage à l'acte et alimente la violence. Et pourtant, vous précisez dans l'introduction de Terrorisme, les affres de la vengeance, que la vengeance est le grand impensé des études universitaires. Comment l'expliquez-vous?
Oui, alors en effet, ce qui est frappant, c'est qu'à chaque attentat, que ce soit dans le contexte français, européen ou je dirais mondial, hein, ce qui est intéressant, c'est que systématiquement, les assaillants, quelle que soit leur culture, leur nationalité, leur parcours individuel antérieur, font tous référence à la vengeance. Systématiquement, on s'aperçoit qu'il y avait un certain nombre de griefs aussi qui les habitaient et qui ont été happés en quelque sorte par le mouvement djihadiste ou le mouvement terroriste, quand on n'est pas du djihadisme, et qui recadre ces griefs vengeurs dans le contexte d'une cause collective qui fait aussi de la vengeance son principal dénominateur commun. Et alors c'était d'autant plus frappant de constater ça sur la base de mes recherches, que la vengeance est sous-représentée dans les études sur le terrorisme, mais j'irais jusqu'à dire dans les études sur la violence politique.
Quels sont les ressorts de ces griefs ?
Ce sont soit des injustices, des inégalités, des crimes, des offenses, des insultes. On a toute une catégorisation de griefs. Hein. Ça, c'est par contre étudié dans le contexte, par exemple, des études sur les guerres civiles. Mais c'est très peu représenté, alors que depuis des années, les terroristes qui nous frappent nous disent systématiquement qu'ils se vengent. On prend l'exemple du procès du 13 novembre. Indépendamment des témoignages qui sont donnés par les victimes aujourd'hui, on voit très bien que l'un des terroristes, Salah Abdeslam, arrive en clamant haut et fort du premier jour qu'il ne reconnaît pas la justice établie et qu'il est toujours dans la même logique vengeresse qui n'a finalement pas beaucoup évolué malgré sa détention et malgré les années qui ont passé.
Ce sont ces griefs-là que les mouvements terroristes instrumentalisent dans leur dispositif d'embrigadement, de recrutement?
Ah oui, c'est même le cœur, j'irais jusqu'à dire que c'est le cœur du dispositif d'embrigadement, parce qu'après tout, les partisans de groupes comme Al-Qaïda ou de l'État islamique, pour ne citer que les mouvements djihadistes qui sont effectivement les plus prégnants, les plus actifs aujourd'hui sur la scène internationale, tous ces mouvements ont réussi à recruter parce qu'ils proposaient justement une rhétorique vengeresse à des personnes qui par ailleurs étaient vulnérables pour un certain nombre de raisons ou qui ont cru bon d'adosser leur propre désir de vengeance à celui qui était poursuivi par le mouvement. On a cette rencontre très complexe entre la vengeance personnelle qui habite le terroriste et le mouvement qui finalement offre un espace de concrétisation de cette vengeance et qui va rehausser aussi le désir de vengeance parce qu'il lui offre ses lettres idéologiques en quelque sorte.
Il ne s'agit pas d'excuser mais de comprendre ce qui sous-tend l'acte terroriste. Vous écrivez que pour une majorité de terroristes, l'injustice est un déséquilibre de force et pour eux, la vengeance devrait permettre de rééquilibrer ce déséquilibre.
Oui, alors c'est une question, la question de la justice et en l'occurrence de l'injustice, elle est centrale en fait dans toute l'histoire du terrorisme parce qu'on réalise finalement que, en tout cas, toute violence politique procède d'un sentiment d'injustice ou de ce qui est caractérisé comme injuste. Et ça, c'est pas non plus une question qui est très traitée par les études sur le terrorisme. On va davantage s'intéresser au profil psychiatrique de certains assaillants. On va essayer de retracer leur parcours individuel, ce qui est par ailleurs riche d'informations. Mais on sent que cette question de l'injustice, elle est toujours aussi passée sous silence parce que reconnaître qu'il y aurait une injustice, ce serait indirectement reconnaître une forme de légitimité à la cause des terroristes, indépendamment du mode opératoire violent qu'ils utilisent, bien sûr. Ça, malheureusement, je pense que ça nous empêche aussi d'ouvrir les yeux sur pourquoi, comment des individus peuvent se transformer en monstres jusqu'à se donner la mort, finalement, au nom d'une cause qu'ils estiment comme étant pour le coup juste la meilleure, qui rétablit un équilibre là où le monde serait fondamentalement déséquilibré. Mais c'est une question très sensible parce qu'encore une fois, cette concrétisation de la violence qui est extrême, barbare, brutale et qui fait qu'aucune opinion publique, aucun gouvernement n'est encore prêt finalement aujourd'hui à considérer le terrorisme de manière froide et plus distanciée.
Alors vengeance totale. En revanche, ce que vous pointez dans un de vos chapitres, c'est que les djihadistes se revendiquent souvent d'une vengeance au nom du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais on comprend à la lecture de votre livre qu'il y a en fait un dévoiement, une méconnaissance de cette loi.
Oui, c'est intéressant parce que on a en tout cas au niveau des mouvements terroristes qui assoient leur cause sur des textes religieux, donc comme l'État islamique avec l'islam, on a effectivement cette référence dans la tradition monothéiste à la loi du talion, En tout cas, par exemple, c'était ce qu'avait dit Mohamed Merah lorsqu'il était parti tuer Imad Ibn Ziyaten. Il lui avait dit « Tu tues mes frères en Syrie, je te tue ». Et ça a été aussi d'ailleurs les paroles des terroristes du 13 novembre. Cela étant, bien sûr, qu'il y a un dévoiement total, parce qu'en réalité, la loi du talion dans la tradition juive, et ensuite, je dirais, monothéiste au sens plus large, c'est une tradition de proportionnalité. On rend le coup à l'ennemi, à l'adversaire, dans des proportions justes. Et dans le terrorisme, en fait, il y a un dévoiement total, dans la mesure où la violence est aveugle, indiscriminée, parce que je rappelle qu'une majorité de victimes du terrorisme aujourd'hui sont des victimes civiles, par effet de vengeance vicariante déplacée vers des groupes qui n'ont aucune responsabilité dans ce qui leur est reproché. Et donc voilà, on arrive à des sites de contagion, de représailles incessantes, d'aveuglement dans la violence qui conduit aux situations dramatiques qu'on a connues au cours des dernières années.
Alors, vous l'évoquez dans votre livre, la question se pose vis-à-vis des démocraties. Comment réagir à cette violence intégrale? C'est vraiment une question centrale pour les démocraties actuellement.
Non, en fait, ça a commencé à être une question, je dirais, fondamentale après le 11 septembre, lorsque les États-Unis, qui sont un pays démocratique, ont dû faire face à cet événement monumental qui, d'ailleurs, rappelons-le, était orchestré et revendiqué au nom de la vengeance. D'une vengeance contre l'Amérique. Dès lors, les démocraties, après européennes aussi, hein, avec les attentats de Madrid de 2004 et puis toute la succession des attentats jusque, bien sûr, au 13 novembre 2015 en France et puis même avant aux attentats de janvier 2015 contre l'hypercachère et Charlie Hebdo, bon, on a aujourd'hui, si vous voulez, une mise à niveau, je pense, du renseignement. On a voulu aussi beaucoup investir dans le sécuritaire, dans la prévention, dans la déradicalisation. Il y a un certain nombre de notions, encore une fois, qui sont devenues très, très en vogue. Mais on sent bien qu'on est encore dépassé par cette violence, parce qu'on ne peut pas y répondre selon les mêmes termes, dans la mesure où on oppose à cette vengeance terroriste le système de la justice antiterroriste, c'est-à-dire le système pénal, finalement.
Et donc, d'une certaine façon, la vengeance est taboue.
Mais oui, la vengeance est totalement taboue parce que elle a été expulsée justement du champ de l'institution judiciaire au moment où l'État contemporain européen s'est bâti, l'État moderne, qui ne pouvait plus laisser place à la vengeance parce qu'elle était synonyme de règlement de compte privé. Or, encore une fois, alors les juristes, les magistrats, les avocats, aujourd'hui défilent dans les médias autour du 13 novembre pour nous dire qu'il n'est pas question d'obtenir vengeance contre les terroristes. Or, la parole des terroristes à ce procès est une parole de vengeance. Donc on est vraiment dans un choc des perceptions, un choc des références. Et les démocraties ont plus grand mal en réalité à traiter cette violence qui les dépasse.
Qui les dépasse. Et comment analyser les exécutions extrajudiciaires menées par des démocraties, effectivement par des attaques aux drones, soit par les Américains, soit par les Français? Comment analyser ces exécutions extrajudiciaires dans ce cadre?
C'est intéressant parce qu'on a justement un parallélisme assez clair. On a d'une part la justice pénale établie qui juge les terroristes et qui se défend de se venger. Et de l'autre, on a ces opérations extrajudiciaires d'élimination des terroristes sur zone, qui est une vengeance brute, qui ne dit pas son nom, qui n'est d'ailleurs pas montrée dans les médias. On en parle en annonçant la mort d'un chef djihadiste en Afghanistan, en Syrie, en Irak, mais on ne montre pas les images. Tout ça, c'est finalement très caché aux opinions. Mais depuis des années, les gouvernements dits démocratiques se vengent en réalité à travers cette multiplication d'éliminations extrajudiciaires. Ça a fait l'objet de débats pendant la guerre d'Irak assez nourris. Il y a toute une littérature américaine sur le sujet. En France, c'est assez tabou finalement. C'est très lié aux opérations du renseignement ou à des opérations militaires assez secrètes. Donc on n'en entend pas beaucoup parler. Mais bien sûr qu'on n'a jamais en fait renié la vengeance et on y recourt nous-mêmes.
Vous concluez notamment par cette question centrale, le contre-terrorisme aurait-il en quelque sorte perdu sa raison d'être première, à savoir combattre la violence pour préserver la paix et la stabilité? Et vous dites qu'il est compliqué d'y répondre.
Alors c'est compliqué, mais je pense quand même que les expériences militaires des dernières années qui ne s'assortissent pas de missions de reconstruction, qui ne donnent pas la part belle aux missions civiles, notamment d'aide aux populations, de remise en état des infrastructures, de reconstruction d'un État, etc. On voit quand même qu'on est sur du tout militaire et que ça n'aboutit qu'à l'impasse. On a parlé de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie, on peut parler du Sahel aussi. D'ailleurs, on a tellement raté, je pense, nos guerres, désolé de le dire ainsi, mais on les a tellement, en tout cas, bâclées, qu'on est complètement passé à côté du rôle joué par les sociétés qui finalement tombent aussi dans le message vengeur des djihadistes à mesure d'être violentés et de ne pas avoir d'horizon.
Merci Myriam Benrad.
Merci.